vais d'abord passer la parole aux intervenants en leur demandant s'ils souhaitent réagir aux interventions des deux discutants et en insistant pour que s'ils réagissent, ce ne soit pas trop long pour donner la parole à la salle parce que nous devrions lever le camp vers midi quart grand maximum.
Merci. Oui, peut-être deux, trois remarques rapides. Tout d'abord sur ce que Peter Lagroux a dit en reprenant cette distinction entre vérité qui implique une simple connaissance comme la vérité historique et puis vérité officielle ou judiciaire qui implique en plus de la connaissance une reconnaissance. Et à mon sens, dans le cadre de la pénalisation du négationnisme, on a en réalité une sorte de superposition et de dilution de ces trois ordres de vérité donc dans ce cadre-là. Si on prend la vérité officielle, elle peut survenir par deux voies, soit la voie judiciaire immédiatement, c'est notamment la voie Nuremberg ou du TPIR, il y a des incriminations, des faits, et on peut obtenir une condamnation en se basant sur le droit pénal international. Et on va obtenir de cette manière-là un cliché judiciaire des faits et de la reconnaissance de la responsabilité. On peut également avoir cette reconnaissance par le biais du législateur, et donc là c'est tout ce qu'on va appeler le phénomène des lois mémorielles, avec des lois purement déclaratoires qui reconnaissent, pour prendre un exemple concret, qui vont reconnaître la réalité du génocide des Arméniens, par exemple. On a une loi belge, une loi française, une résolution du Parlement européen. Et puis par le biais du législateur toujours, on peut aller un cran au-dessus, en rondant ces faits incontestables. Et là, on arrive à la pénalisation de la négation de ces faits reconnus. Et alors, tout le débat là, c'est comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Et c'est le débat avec le génocide arménien. Il y a eu des reconnaissances de génocide, mais il n'y a pas d'incrimination de leur contestation. Et avec un lobbying extrêmement intense pour que l'on passe de la reconnaissance à l'incrimination pénale. Alors, ce qui est intéressant dans la mise en œuvre de la pénalisation du négationnisme, c'est qu'on va avoir un débat sur la définition ou le mode de définition des faits qui sont incontestables. Parce que même si le législateur a dit le génocide arménien existe, ce n'est pas forcément suffisant. Lorsqu'on se pose la question de l'incrimination du négationnisme versus le respect de la liberté d'expression. Et là, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de cette question, elle a dit qu'il était légitime de pénaliser la contestation de faits, pour autant que ces faits soient incontestables, alors que la contestation s'inscrive également dans un discours plutôt raciste. Et ce qui permet de dire que les faits sont incontestables, c'est, selon la Cour, le fait qu'il n'existe plus, à l'égard de ces événements, de véritable débat entre les historiens. C'est-à-dire que là, on retombe sur la vérité historique, pour en fait établir une vérité officielle comme critère d'application légitime de la loi. Et puis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les débats sur la généralisation ou l'élargissement de l'incrimination de négationnisme, là, le critère qui va être utilisé au sein du Conseil de l'Europe dans la Convention sur la cybercriminalité, enfin, le protocole sur la cybercriminalité relatif au racisme et à la xénophobie, ou la décision CAR de 2008 de l'Union européenne, là, le critère qui va être utilisé pour établir les événements qui deviendraient incontestables et qui donc pourraient faire l'objet d'une pénalisation, s'ils sont contestés, enfin la contestation, là, on retombe non pas sur une vérité historique, l'absence de débat entre historiens, mais sur une vérité judiciaire. C'est parce qu'il y a vérité judiciaire qui deviennent incontestables. Donc on a vraiment un brouillage total de tous ces registres. Et deuxième remarque, là pour prendre l'intervention de Christian Delage, sur la manière dont vont être dénommés les événements dans le cadre de la loi sur le négationnisme. Faut-il parler de Shoah, de l'Holocauste, qui est déjà une construction, reprendre la terminologie de destruction des Juifs d'Europe? Ce qu'il faut souligner dans les lois de pénalisation du négationnisme, c'est que l'on vise à la fois des faits, des événements, mais surtout une qualification juridique de ces événements. Et que donc, si on prend la loi belge, on va parler du génocide commis par le régime national socialiste, et on va définir dans la loi le génocide comme étant la définition reprise dans la Convention de 1948. Donc c'est un concept juridique de génocide et pas un concept plus général qu'on pourrait se faire. Et donc, ce qui va être visé par le négationnisme, ce n'est pas simplement la remise en cause de certains faits caractéristiques de l'événement, destruction des Juifs d'Europe, mais également la manière de les qualifier juridiquement. Donc, par exemple, si on compare avec la loi Guesso, dans la loi Guesso, on parle de crime contre l'humanité, on retient la qualification du tribunal de Nuremberg, crime contre l'humanité, alors que dans la loi Bell, c'est la qualification juridique de génocide. Et lorsqu'il va s'agir d'élargir le négationnisme, notamment dans la mise en œuvre de la décision cadre, là également, on a recours à des qualifications juridiques. Si on prend le cas de Srebrenica, par exemple, il ne sera pas simplement interdit de remettre en cause les faits tels qu'ils se sont produits à Srebrenica, mais également la qualification juridique de Srebrenica. Si on disait que Srebrenica était un simple crime de guerre, on entrerait dans le négationnisme tel qu'il est défini notamment par la décision cadre.
Merci. J'aimerais aussi donner deux bref remarque sur l'intervention des collègues historiens que je trouvais extrêmement intéressant. Deux questions. La première, la fonction de la vérité. Alors, il y a une. On nous a dit, monsieur Legroux, que la vérité n'a pas changé, mais la fonction de vérité est transformée. Et la deuxième, sur la question de l'opinion publique. Sur le premier point, je trouve que c'est une indication de méthode pour les juristes. Très important de ne pas oublier que aussi les formes juridiques sont en train de changer et leur fonction change constamment. Ça, c'est un phénomène que le juriste et historienne autrichienne appelait la neutralité des formes juridiques. Aussi, une doctrine ou un principe juridique peut varier, peut être utilisé pour différentes tâches dans différentes périodes, dans différents contextes. Alors, l'analyse que nous avons faite des droits de la personnalité en Allemagne et en Italie nous dit exactement que la même institution juridique peut être utilisée d'un côté pour jeter un voile de silence sur l'histoire de l'Allemagne, d'autre côté pour défendre une vision pluraliste de l'histoire chez nous. Alors, c'est très important pour les juristes de reconstruire l'usage des institutions juridiques. C'est comme une... la distinction que nous avons toujours entre le texte et l'interprétation, alors il faut que le juriste fasse l'histoire de la réception d'un texte, comme l'historien fait l'histoire de l'utilisation de la fonction de la vérité. Et je trouve que c'est une indication de méthode très importante. La deuxième question, c'est la question de l'opinion publique. Alors, c'est aussi très important dans le débat sur la judiciarisation de l'histoire de prendre en considération aussi le problème de l'influence de la médiatisation du procès. Nuremberg, mais pas seulement Nuremberg, parce que si on étude les décisions sur l'affaire Priebke en Italie, on peut voir exactement quelle influence a la presse et l'opinion publique sur la décision des juges. Mais pas seulement ça, je trouve que c'est aussi nécessaire pour les juristes d'avoir clair une distinction entre le jugement sur les faits de l'histoire, sur les événements de l'histoire, sur la responsabilité pour les faits de l'histoire, responsabilité civile ou responsabilité pénale, et d'autre côté, les jugements sur les discours sur l'histoire. Alors, dans notre rapport, on a fait une analyse des différentes façons dans lesquelles les juristes ont jugé l'histoire, un côté en se prononçant sur la responsabilité des criminels nazistes ou des partisans pour les affaires de Wiesel et de Fosse Ardeatine, mais d'autre côté aussi la question de la liberté de l'historien de donner une explication, une narration des affaires de Fosse Ardeatine. Alors, je trouve que c'est très important de ne pas oublier ce que nous a dit hier Antoine Garapon, que la qualité de la vérité judiciaire est proportionnelle à sa concentration sur des faits spécifiques dans une certaine communauté. Il faut juger des faits précis dans l'histoire et pas juger les faits de l'histoire. Alors, je trouve qu'il faut avoir, surtout quand on va juger les discours sur l'histoire, une prudence de côté des tribunaux. C'est clair, il faut distinguer trois discours sur l'histoire. On peut voir les discours sur des faits qui sont socialement ou officiellement établis, la question du négationnisme. On peut avoir les discours qui produisent une violation des droits de la personnalité de l'individu, honneur, réputation, identité personnelle, ou on peut avoir des discours sur l'histoire qui déterminent une violation des droits de la personnalité des groupes. Alors, si on considère cette distinction, je trouve que le degré de la superposition entre la vérité judiciaire et la vérité historique est différent. On peut dire que l'historien doit avoir une liberté croissante quand on passe dans le premier niveau au deuxième, au troisième. On a plusieurs décisions qui nous disent que l'historien a été condamné par la négation de faits établis historiquement. Mais chaque fois que l'historien porte des reconstructions sur la vérité historique en déterminant des violations de droit d'honneur et de droit de réputation, on a un problème de superposition d'une vérité historique et judiciaire. Parce que l'historien peut utiliser l'exceptio veritatis pour échapper à une condamnation. Alors, s'il démontre que la vérité des faits, des allégations, a été déterminée pour une méthode suffisante et scientifique, il faudrait que le juge s'arrête dans cette démonstration. Par contre, quand on a de la violation des droits de la personnalité des groupes, par exemple l'identité personnelle des comités de protection des Arméniennes, on a eu différentes affaires judiciaires en Italie, et quand on dit que l'identité personnelle du comité a été violée parce que le génocide arménien n'a pas été considéré dans un traitement historique des grands massacres du XXe siècle, alors là, dans cette façon, le juge est moins prudent et le juge tend à ne pas condamner l'historien, à respecter la liberté de l'historien. Alors, la différente façon dans laquelle la vérité judiciaire se va superimposer à la vérité historique change en fonction des différents sujets. Jugement sur les faits et jugement sur le discours historique. Aussi, dernière remarque, la chose qu'on a essayé de démontrer est que normalement, dans le débat sur la vérité historique, on use une opposition entre la vérité judiciaire et les vérités historiques. Moi, je crois qu'il faut parler de plusieurs vérités judiciaires et pas seulement une vérité judiciaire. L'affaire de Via Rasella nous dit et nous démontre qu'il y a différentes vérités judiciaires en fonction des différents juges dans une différente période de temps.
Oui, merci donc pour ces deux commentaires. Je voudrais peut-être revenir sur deux points. Le premier point, donc ce qui a été dit sur le couple Museveni Ocampo Kagame Del Ponte, et donc plus particulièrement ce que tu disais après sur la question qu'on revient en arrière, qu'on va aussi en avant, et donc en revenant pour le cas du Rwanda, même à 1959, c'est une question aussi qui me semblerait intéressante par rapport au cas temporel dont j'avais parlé dans le statut, pour les crimes qui peuvent être jugés, c'est qu'il y a évidemment une explosion de ce cadre temporel dans les procès, parce que c'est pas possible de se limiter à 1994, et que donc forcément on revient en arrière. Donc ça, c'est un élément qui serait vraiment intéressant à creuser. Et puis, sur les autres espaces judiciaires, là aussi, c'est clair que voilà, le TPR s'inscrit dans un ensemble d'interactions. Et là, une piste serait aussi de voir la circulation des acteurs dans ces différentes sphères judiciaires. En tout cas, pour ce qui est par exemple des témoins experts, j'ai en tête quand même un certain nombre de circulations des expertises, que ce soit au niveau des jugements qui ont été, enfin des procès, pardon, en Belgique, au TPIR, ou même, enfin peut-être pas pour le Rwanda, mais en tout cas, je sais que par exemple, Alison Desforges est apparue dans une juridiction Gacaca. Donc là, ça serait. Donc Alison Desforges, qui est une historienne qui a été vraiment beaucoup sollicitée par le TPIR, qui est intervenue dans une dizaine de procès. Donc voilà. Et alors le deuxième point sur la vidéo, enfin sur le film, D'une part, ben, le film comme preuve ou comme élément faisant partie du processus du procès. Et puis aussi la question de la trace des procès, puisque ce qui est intéressant à noter, c'est que pour ce premier procès, en fait, le procès à Keizu est jusque dans les années 2000, je pense 2000-2001, en fait, il n'y avait pas de dispositif de filmage réellement mis en place au niveau du TPIR. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'audiences, il y a des opérateurs extérieurs qui sont venus filmer, mais il n'y avait pas encore ce système avec les différentes caméras qui peuvent filmer donc, différents points de vue. Et même lorsque ça a été mis en place, on ne filme jamais les témoins. Contrairement à ce qui se passe, je pense, au TPIR, où ils sont filmés, même s'ils sont floutés, enfin, il y a un système... et donc, je pense, du point de vue de la trace archivistique des procès, bien sûr, pour le procès à Keizu, par exemple, il y a 261 heures d'audio qui est conservée. Par contre, au niveau de la vidéo, en tout cas, d'après l'archiviste, on a 12 heures de vidéo seulement qui a été conservée. Voilà.
Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais passer la parole à la salle et j'en profite pour dire aux étudiants qui sont là qu'ils n'hésitent pas à poser des questions, qu'ils n'aient surtout pas peur. On ne retiendra pas leur nom et ne devront même pas se présenter s'ils ont des questions à poser.
Leur visage sera flouté.
Leur visage sera flouté, exactement. Martina, oui.
Merci beaucoup. Merci pour les trois exposés, pour les deux... exposés des discutants également. Ma question principale s'adresse tout d'abord à Ornella, mais j'ai une sous-question qui s'adresse peut-être à tous les participants. Dans le cadre du procès à Keizu, tu as dit que il y avait une première reconnaissance judiciaire de l'existence d'un génocide au Rwanda. Ma question porte sur la portée en fait de cette reconnaissance, étant donné que le fait de l'existence du génocide au Rwanda était déjà quelque chose qui était reconnu par la communauté internationale, et c'est d'ailleurs compris également dans la résolution du Conseil de sécurité. Donc j'aimerais bien que peut-être que tu donnes quelques indications s'il y avait vraiment un enjeu là. Que ce soit pour peut-être les victimes ou même au niveau du TPIR, de vraiment reconnaître le génocide en tant que tel, mis à part la question évidemment de la responsabilité individuelle. Et alors, ma question plus large, et là je me référais peut-être à l'expression utilisée par Peter Lagroux du rôle de la vérité dans tous ces procès, c'est de savoir... Justement, dans des cas comme ça, où, on va dire, la vérité au sens large, donc de l'existence d'un génocide ou des représailles dans votre cas, ou de l'existence de l'Holocauste ou de la Shoah, quand cette vérité-là, large, est déjà connue, quels sont, selon vous, les enjeux d'une reconnaissance des petites vérités particulières relatives à des individus ? Voilà, merci.
Merci pour la question. En fait, peut-être pour repartir justement de la fin de ta question sur la question de la responsabilité individuelle, on a effectivement Jean-Paul Akeizou qui est considéré comme responsable individuellement de par ses qualités de bourgmestre avec toutes les questions d'autorité que ça pose. Comme je disais dans l'exposé, donc c'est vrai que dans le jugement, il y a un chapitre qui est consacré à un génocide au Rwanda en 1994, point d'interrogation. Et donc c'était aussi à partir de ça que j'avais voulu mettre en avant le fait que donc il y a à la fin de ce chapitre une reconnaissance qu'effectivement on est, même si on est dans un cas tout à fait particulier de cette commune, qu'on se trouve dans un contexte général dans lequel il y a un génocide avec tous les mécanismes que ça implique d'incitation, de préparation, de planification, etc. Après, sur l'enjeu, par exemple, même juridique de cette reconnaissance, je pense que c'était en tout cas la première fois en 1998 qu'un tribunal international appliquer la convention de 1948 sur le génocide. Enfin, là, je me tourne vers les juristes, mais je pense que c'est le premier tribunal international, en tout cas, qui le met en pratique, me semble-t-il. Et autre particularité, sur la question du viol comme acte constitutif de génocide, là aussi, il semble que c'est quand même un élément, en tout cas, neuf, qui rentre dans la jurisprudence. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a un impact sur la durée après, sur le génocide, pour le TPIR. Il faudra attendre 2006 pour qu'il y ait le constat judiciaire du génocide, c'est-à-dire que dans chaque procès, on ne doit pas revenir sur un certain nombre de points qui en fait étaient répétés dans tous les procès et que donc on a établi une sorte d'acquis sur un certain nombre d'éléments. Bon, là, je suis, enfin, pour en parler, je ne suis pas assez compétente sur la question pratique, théorique.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ?
Très brièvement, je pense que si on regarde les affaires des derniers 20-30 ans, on peut dire, hier on a écouté la notion de droit à la vérité. Alors je trouve que plusieurs fois chez nous, on a utilisé les jugements sur la responsabilité individuelle pour une fonction symbolique. Alors si on regarde l'affaire Pripke, 50 ans après le massacre de Fosse Ardeatine, et la pression publique pour une déclaration des responsabilités, il avait une fonction symbolique pour la reconnaissance d'une faute et qui est très importante pour la reconstruction d'une harmonie sociale.
Pourquoi, une fois que le grand tableau a été approuvé par un tribunal, pourquoi quelque part perdre du temps à organiser plein de petits procès ? Je pense que ça montre la fragilité de la vérité judiciaire. Bon, pourquoi, après Nuremberg, encore organiser des procès ? Eh bien, justement, parce que Nuremberg est une référence faible et que, notamment pour la société allemande, il a fallu s'approprier ces jugements, d'ailleurs avec des références radicalement différentes, c'est-à-dire avec le code pénal de 1870 et en évacuant toute référence aux crimes contre l'humanité et au génocide. Mais la grande fragilité, c'est d'ailleurs ça qui fait débat, ce qui fait référence dans ce système autoréférentiel juridique, toute la question, quel a été l'impact de Nuremberg ? Est-ce que Nuremberg a contribué à dénazifier la société allemande ? Rien n'est moins sûr. Dans la dénonciation de Nuremberg, que le négationnisme prend racine, avec Racinier, mais aussi Adenauer von Weizsäcker vont toujours dénoncer Nuremberg. Donc voilà, il ne suffit pas dénoncer une vérité juridique, il faut qu'elle soit déclinée, qu'elle soit appropriée, qu'on établisse le périmètre social et humain de cette vérité juridique. Et finalement, et oui, y compris Nuremberg, finalement, le jugement de Nuremberg en Allemagne dans les années 50 est extrêmement fragile, ne convainc pas. Et je pense que c'est cela qui explique peut-être aussi cette logique.
Oui. D'abord, monsieur.
Oui, bonjour. Je voudrais réagir à ce que vient de dire l'orateur qui me présente. Je suis avocat au barreau de Namur, Yvan de Baguer-Fassotte. Et vous savez, la vérité judiciaire, je l'ai très peu rencontrée. Parce que chaque fois qu'on gagne un procès, le gars qui a gagné, il trouve ça tout à fait normal, c'est la vérité depuis le début. Celui qui perd le procès, ce n'est jamais la vérité. Et puis, de toute façon, tant qu'on ne va pas en appel ou en cassation ou encore plus loin en Europe et tout ça, il n'y a jamais de vérité pour l'un ou pour l'autre. Il y a une partie de vérité pour chacun. Ou il n'y a pas de vérité du tout pour ceux qui vraiment ont une mauvaise foi. Mais il faut quand même, pour éviter tous ces débats, pour que ces débats ne continuent pas des années après, pour recréer une paix dans la société entre les partis ou entre les courants, entre les influences, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de référence. Et je pense qu'une procédure comme un procès en justice, que ce soit devant un TPR, devant un TPI, devant une cour d'assises ou n'importe quoi, eh bien, ce n'est peut-être pas la vérité réelle, parce que ça, Dieu seul la connaît, pour ceux qui croient, ou l'être suprême, ou n'importe qui, peu importe, mais il faut quand même bien qu'il y en ait une qui soit telle qu'elle, qui soit fixée. On n'élimine pas tous les débats, la preuve c'est qu'il y a des recours possibles, mais encore une fois, si vous avez même un jugement qui vient de l'autorité judiciaire et qu'il n'y a pas d'appel parce qu'un parti n'a pas assez d'argent pour y aller, ou parce que la Cour européenne de justice dit « je ne reprends pas cette affaire-là parce que j'ai déjà jugé dans des cas similaires », Alors qu'en justice, il n'y a jamais de cas exactement similaires, pour ça qu'il faut refaire des procès, vous n'avez jamais vraiment la conscience que la vérité est atteinte. La vérité elle-même est subjective. Il n'y a pas de vérité nue, il n'y a pas de vérité brute. Ça dépend de la culture, ça dépend des croyances de chacun. Alors moi, je crois qu'effectivement, le juge est peut-être le mieux à même, avec les différents acteurs du procès, d'arriver à cerner, peut-être pas la vérité en tant que telle, mais du moins avec son intime conviction, dont nous n'avons pas parlé, on a beaucoup parlé de preuves, mais pas de l'intime conviction du juge, je crois que le juge est à même de dire, une fois pour toutes, eh bien voilà, aux yeux de tout le monde, actuellement, dans ce contexte social, politique, culturel, religieux-ci, voici la vérité telle que l'on estime devoir être la vérité en tant que telle. C'est une vérité judiciaire. On n'a jamais, nous, prétendu, les juristes, avoir la vérité. On dit toujours la vérité judiciaire. Les historiens parlent de vérité, nous de vérité judiciaire. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Oui, bonjour. Gaëlle Breton-Legoff de l'UQAM, Montréal. Je voudrais apporter plus des remarques d'ailleurs que des questions véritablement. Premièrement, une remarque qui suit l'intervention que vous avez faite tout à l'heure, à savoir que pourquoi est-ce qu'il était important devant le tribunal pénal international du Rwanda de reconnaître et d'établir juridiquement qu'il y avait un génocide, alors qu'il existait une reconnaissance, on va dire presque internationale, de l'existence de ce génocide. Tout simplement parce que dans le cadre du procès ou dans le cadre de la procédure judiciaire, on va établir l'existence d'un génocide selon les critères juridiques, c'est-à-dire selon l'élément matériel, la mens rea, etc. Et c'est important de le faire parce que c'est le cadre lui-même qui va... c'est l'infraction qui va être constituée et donc de laquelle on va pouvoir tirer les responsabilités individuelles. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant très longtemps, devant le TPIR, de manière systématique, les avocats de la défense ont remis en cause l'existence même du génocide. Et ça fait effectivement depuis seulement quelques années qu'on ne revient plus sur la réalité du génocide et la qualification juridique comme étant, enfin sur l'existence même du phénomène du génocide au Rwanda. La deuxième remarque que je voulais faire, ça tient à cette... idée qui a été présentée à la fois par François Dubuisson et également par nos deux amis italiens concernant le rôle du juge dans la vérité et surtout l'effet que ça a, cette vérité judiciaire qui va être de fixer dans le temps une certaine vérité sur laquelle on va se référencer ou se fixer pour l'avenir pour établir qu'un fait historique n'est plus contesté ou qu'une réalité historique n'est plus contestée. Moi, je trouve ça particulièrement problématique quand on regarde le cours de la justice pénale internationale et notamment en matière de violences sexuelles, la poursuite des violences sexuelles. Dans le cadre, pourquoi c'est un problème? Parce que devant les tribunaux pénaux internationaux ou devant la Cour pénale internationale, au fond, celui qui établit les bases de la vérité au départ, c'est une seule et même personne qui a un pouvoir discrétionnaire et qui va le faire selon la politique de poursuite qu'il aura déterminée, et c'est le procureur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité qui va ressortir du procès Katanga, Ngudjolo Shui, c'est la vérité sur un événement particulier qui est l'attaque de Bogoro. Et dans le cas de Germain Katanga, eh bien, la vérité qui va être établie, c'est y a-t-il ou non utilisation d'enfants soldats? Or, on sait très bien, ça a été documenté, que M. Katanga s'est livré à beaucoup, beaucoup d'autres crimes contre l'humanité que ceux pour lesquels ils sont poursuivis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vérité-là? Et pourtant, c'est celle-là qui va marquer, c'est celle-là qui va être fixée dans le temps judiciaire, qui va donner lieu à l'évolution de la jurisprudence, certes, mais qui va être fixée et sur laquelle, malheureusement, on ne pourra plus revenir, à moins que le procureur dépose de nouveaux chefs d'accusation pour poursuivre M. Katanga pour crime de violence sexuelle. Mais ça n'a pas l'air d'être du tout l'intention. Alors ça pose un problème par rapport à la fonction de la vérité judiciaire, notamment en termes de réparation pour les victimes. Parce que, malheureusement, je n'étais pas là hier, donc je ne sais pas si c'est un sujet qui a été abordé, mais cette vérité judiciaire, elle a aussi un impact sur les victimes, et notamment en termes de réparation pour elle-même sur le plan psychologique. C'est important que les crimes qui ont été commis soient poursuivis intégralement pour les victimes. Alors, c'était juste une remarque que je souhaitais faire. Merci.
Merci beaucoup.